l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actu sur un plateau. Cette émission est à nouveau consacrée au rendez-vous hors normes et à la suite du programme qui est encore très riche jusqu'au 26 mai. Et aujourd'hui, nous allons parler en particulier des propositions qui auront lieu au cinéma de Millau et au café culturel Le Pivert. En fin d'émission, donc, on retrouvera Philippe Flao de la compagnie La Création Éphémère pour parler de la soirée Droit de réponse organisée au Pivert, donc un clin d'œil à Polak et à son émission des années 80 sur TF1. Et juste avant, nous serons au téléphone avec Pierre Kivitz du Centre de réhabilitation psychosociale de Rodez pour parler du concert des Squatteurs du Blues qui sera proposé le même soir, toujours au Pivert, donc le samedi 20 mai. Mais tout de suite, on commence avec notre invitée Françoise Cabiron pour parler de la projection du film L'Homme qui penche, consacré au poète Thierry Metz. Et donc, c'est parti pour une petite heure d'émission ensemble. Donc bonjour Françoise.
Bonjour.
Tu fais donc partie du collectif Hors Normes, oui. Et tu es à l'origine, on peut dire, de cette projection du film documentaire L'Homme qui penche, de Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury. Donc un film qui sera projeté au cinéma de Millau le mardi 23 mai à 20h30. Et pour faire juste une petite introduction, après on pourra en reparler plus amplement, mais voilà, c'est un film qui retrace la vie de Thierry Metz, une vie qui est intimement liée à la création et à l'écriture, une vie qui a été arrêtée par suicide donc quand Thierry Metz avait 40 ans en 1997. Et le titre L'Homme qui penche fait référence à son recueil de poèmes et d'écrits qu'il a écrit durant son séjour dans un hôpital psychiatrique de Bordeaux où il avait été interné pour soigner son alcoolisme et sa neurasthénie. Il s'était jamais repris en fait de la mort accidentelle d'un de ses trois fils. Pardon, je vois que vous me faites non de la tête.
L'alcoolisme n'est pas lié à la mort de son fils. Ça, j'en ai parlé avec Françoise Metz, parce que moi, d'après ce que je lisais, et d'après même ce qu'on lit dans L'Homme qui penche, quand le psychiatre lui parle de l'alcoolisme, Thierry Metz dit qu'il n'a jamais rien fait sans avoir bu, sauf écrire. Et Françoise Metz, sa femme, m'a dit, hélas, il a pris goût à l'alcool au service militaire.
Ok, donc effectivement, ouais. C'est quelque chose qui précédait, en tout cas, pour retracer sa vie. En fait, on peut dire aussi que voilà, c'est son fils, l'un de ses trois fils, qui a été fauché par une voiture, un 88. Et pour commencer, donc, j'aimerais simplement vous demander, Françoise, comment vous avez fait la rencontre de Thierry Metz et de son œuvre ?
Alors, ça s'est passé l'année dernière, en janvier ou février. J'ouvre mon ordinateur et je vois un mot de Philippe Flao qui me propose de participer à ce collectif hors normes. Immédiatement après, je reçois les cahiers du cinéma parce que je m'occupais du cinéma à ce moment-là. Et dans les cahiers du cinéma, je vois un article, L'Homme qui penche. Alors ça m'a intriguée, l'affiche était très belle. Et en plus, la critique, j'aimais beaucoup, je l'aimais beaucoup, c'était Charlotte Garçon. Alors j'ai lu ça. Et je ne connaissais pas du tout Thierry Metz. Immédiatement, j'ai cherché. Et j'ai eu l'intuition que c'était quelqu'un de très important dans le domaine de la poésie. L'après-midi, je suis allée à la librairie. J'ai trouvé L'Homme qui penche. Et voilà, le soir, j'avais lu L'Homme qui penche. Alors, quand j'ai vu ce livre, Le journal de manœuvre, c'est important parce que...
Donc, c'est un livre qu'il a écrit en 90.
Oui. Les dates de sortie ne sont pas toujours consécutives à l'écriture directement. Quand j'ai vu ce livre, j'ai dit, oh là là, ça va être encore un poète qui va nous dire qu'il se met entre parenthèses toute la journée pour écrire la nuit. Voilà, je l'ai abordé comme ça, et dès la première page, j'ai vu que c'était pas du tout ça.
Ok, donc vous avez fait en fait, vous avez découvert ce film et en même temps l'œuvre de Thierry Metz.
Ouais, le même jour.
Donc c'est une drôle de coïncidence en fait.
Voilà.
Et donc il est considéré comme une grande plume en tout cas pour sa génération. Et il était maçon. Mais il a toujours, écrit.
Il a passé, c'est le seul examen qu'il a eu, le CAP de maçon, mais il l'a passé en 90, je crois. Il était manœuvre.
Il était manœuvre, ok.
Oui.
Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé à l'écriture par... en fait, il était autodidacte.
Quand j'ai parlé de ça avec Françoise Metz, c'est-à-dire, il a suivi un cursus scolaire normal, hein, il a été jusqu'en terminale. Mais bon, il avait son programme à lui. Dès l'âge de 13-14 ans, il lisait énormément. Il a toujours lu énormément. Il lisait des philosophes, il lisait des poètes, il lisait des essayistes, il lisait des textes ésotériques, des textes mystiques. Il a commencé très jeune et je pense que tout ça n'était pas au programme.
Tout à fait. Et pour vous, pourquoi son œuvre a vocation à être mise à l'honneur pendant ces rendez-vous hors normes ?
Parce que c'est un parcours hors normes. C'est un parcours hors normes, c'est un poète hors normes, par l'itinéraire qu'il fait pour arriver à la poésie, qui n'est pas simple du point de vue intellectuel. Et voilà, c'est pour ces raisons-là. Et puis, sur le moment, j'ai trouvé... au début, on ne savait pas si on appelait ça hors norme ou art brut. Et je trouvais qu'il a un contact tellement brut avec la réalité et qu'il matérialise tellement les mots. Voilà, tout ça faisait que... Mais bon, il est mieux dans la catégorie hors norme que dans la catégorie art brut.
Ouais. Oui, de toute façon, l'enjeu de ces rendez-vous, c'est aussi justement de dépasser certaines catégories.
Oui.
Et vous avez dit justement une matérialisation des mots. Et effectivement, j'ai lu quelques critiques de son journal d'un manœuvre, qui est une sorte de journal intime, on peut dire, sur son... qui parle aussi de son métier de manœuvre, justement.
Mmh.
Et pour vous, comment on ressent cette matérialité de l'écriture dans son œuvre, mais aussi dans le film ?
C'est simple, il y a un poème qui s'appelle « Un jour, un homme viendra, prendra une pierre, dira une maison ». Voilà un exemple de son langage. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui... je disais tout à l'heure qu'il ne se met pas entre parenthèses quand il est manœuvre. Il se jette dans la réalité corps et âme. Et il reçoit tout, des sensations. Le chantier devient un lieu de nécessité, hein, il fallait bien vivre, un lieu de réflexion, un lieu de poésie, un lieu de... plein de choses, il se passe plein de choses sur ce chantier, même un lieu de... c'était très dur aussi, hein.
Mmh.
Et voilà, j'ai des exemples là, un lieu de poésie, il compare le chantier à une volière, il dit que on trouve des plumes et on entend des nids, il compare le chantier un autre jour à un bâtiment maritime, un cargo, un gros cargo. Et il dit la grue au milieu du chantier, avec l'ouvrier dans la cabine, c'est comme la vigie de ce bâtiment maritime. Et il a une phrase terrible après, il dit « Mais nul ne peut crier terre ». Le chantier ne finit jamais. Après ce chantier, il y en a un autre et on n'arrive jamais. C'est terrible, ça.
Effectivement. Et pour en venir un peu plus au film, vous avez pu le voir ?
Oui.
Et donc, ce que j'ai vu, moi, de la bande-annonce et des critiques qu'on peut trouver en ligne, en fait, j'ai l'impression que c'est un dialogue vraiment entre les images et la poésie. Mm-hmm. Donc, des images des lieux qui résonnent un peu avec le parcours de Thierry Metz. Donc, par exemple, un chantier de construction proche de ceux où il a travaillé, une maison au bord de la route qui est... semblable à celle où son fils Vincent est mort. Il y a aussi des images d'un hôpital psychiatrique.
C'est sa maison, je pensais qu'on voit au
d'accord.
bord de la route.
Ouais. Ok. Et tous ces images en fait accompagnent les écrits de Thierry Metz qu'on entend dans le film. Vous, c'est quoi qui vous a le plus surprise ?
Alors, ce qui est très fort dans ce film, bon déjà. Ils appellent ce film un documentaire. Moi, je ne dirais pas que c'est plus qu'un documentaire. Parce que, bon, on voit les 20 années de sa vie qu'il passe dans le Lot-et-Garonne. C'est une évocation. C'est une évocation poétique et pudique de son parcours. Et en parlant de critique, la phrase de Mathieu Macheret, qui est au Cahier du cinéma, je crois, est parfaitement juste et bien trouvé. Je vous la lis.
Allez-y.
Le film laisse les mots de Thierry Metz retourner aux choses, aux matières, aux impressions lumineuses dont ils sont issus. C'est ça la force du film, de mettre ces images comme un retour des mots à ce qu'il a vu, à ce qu'il a éprouvé. C'est très fort, ça. Moi, j'ai trouvé ce film... d'ailleurs, si j'avais pas aimé le film, on l'aurait pas passé.
Voilà. Oui, effectivement. Et donc, pour la soirée du 23 mai, où ce film sera projeté donc, au cinéma de Millau, sa femme dont vous avez parlé sera présente.
Elle sera présente, oui. Elle arrive le lundi. Avec Lionel Mazary, qui est aussi un metteur en scène, poète, qui a travaillé au théâtre sur les textes de Thierry Metz. Et voilà, elle vient le lundi en début d'après-midi, elle repartira le mercredi. Voilà, on va beaucoup discuter sûrement.
Donc elle va proposer une petite rencontre autour du film ?
Oui, bien sûr. Après le film, elle sera là pour répondre aux questions. Elle l'a déjà fait.
Et donc, vous me disiez tout à l'heure que vous avez travaillé toute cette année avec le Club Cinéma, c'est ça, autour de Thierry Metz ?
C'est-à-dire, bon, moi, quand je me suis vue lire tout ça, j'ai tous ces livres, enfin bref, et plus que ça même, parce que j'ai aussi des livres de philosophes qu'il a aimés, enfin bref. Et quand je me suis vue lire tout ça, je me suis dit, c'est bête hein, de garder ça pour moi. Et puis c'est stimulant aussi de le faire avec d'autres.
Vous aviez envie de partager, en fait.
Voilà. Et alors, je l'ai proposé à ceux qui étaient au Club Ciné avec moi. Et il y en a 6, je crois, qui sont venus. Mais bon, on s'est réunis 4 fois dans l'année. Entre-temps, on s'est envoyé des documents. On a fait un peu le tour de son œuvre.
Hein. Ok, donc... finalement, un petit groupe partage votre passion, votre découverte.
Et ils seront là, la majorité d'entre eux seront là. On a organisé un repas avec François Maître, enfin oui.
Très bien. Et donc, pour conclure, peut-être on pourrait commenter ensemble une phrase que j'ai trouvée très belle de Thierry Metz, qui dit « Le vrai travail peut-être est de simplifier, de dire le moins possible, mais d'écouter beaucoup. » Ne rien importer le matin, ne pas s'alourdir, être graine pour revenir feuillage le soir.
Bon, cette phrase, elle fait référence au chantier. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que Thierry Metz n'a pas écrit des poèmes toute sa vie. Écrire des belles phrases, ça ne l'intéresse pas. C'est lié à une recherche philosophique, voilà, quelque chose de plus profond. Et en 78, il s'est mis à écrire des textes symboliques qui sont comme une initiation à l'écrit. Il n'avait pas encore décidé, il a décidé un jour d'écrire, mais là, il n'avait pas encore décidé. Et tous ces textes ont été publiés dans la revue Résurrection par Jean Cussat-Blanc, qui était un poète qui était libraire à Agen. Et sous le titre « Le grainotier ». C'est pour ça que je vous en parle. Et alors, il dit que le poète, comme le grainotier, c'est quelqu'un qui fait germer les mots dans la tête du lecteur. Voilà, c'est pareil, le travail est le même, celui du grainotier et celui du poète.
Mmh. Et donc, par la suite, vous allez continuer à rendre vivant, finalement, l'œuvre de Thierry Metz, vous pensez ?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera par la suite, mais c'est possible. Et puis, je me suis aperçue, là, avant de venir, j'ai regardé sur Internet, il y a beaucoup plus d'articles cette année que l'année dernière. Moi, il n'y avait pas tout ça. Hein.
C'est aussi grâce au film qui commence un peu à tourner.
Il y a ça. Oui, ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Il y a une professeure de français de Jean Vigo cette année qui avait mis le journal d'un manœuvre sur la liste des livres du français du bac.
Ok.
Voilà.
Donc en tout cas, oui, c'est beau de voir que son œuvre est encore vivante et merci en tout cas pour proposer cette projection. Donc je le rappelle, ce sera le 23 mai à 20h30 au cinéma de Millau pour le film L'homme qui penche, documentaire mais évocation, vous avez dit aussi, de Marie-Violaine Brincard et Olivier Durie. Donc merci beaucoup Françoise Cabiron pour être venue.
Merci à vous.
Et voilà, cette émission pour l'heure continue avec toute autre chose maintenant, un petit moment d'humour qui nous est offert par les enfants du classe de Myriade, accompagnés par Camille. Ils et elles sont venus à la radio enregistrer des blagues et donc on les écoute tout de suite avant de retrouver nos prochains invités.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct du classe à Radio Larzac.
Et ouais.
Nous sommes aujourd'hui avec...
Myriade. Jassim, Amir.
Bienvenue aux auditeurs. Nous allons aujourd'hui vous raconter des blagues.
Bonjour, je m'appelle Amir, je vais vous raconter une blague. Quel est le comble de la diplomation ? Réconcilier, débrouiller.
Bonjour, monsieur et dame, je m'appelle Jassim, je vais vous raconter une blague. Monsieur et madame Covert ont un fils, comment s'appelle-t-il ? Harry Car Harry Covert.
Bonjour, je m'appelle Nizar. Pourquoi un chat aime bien se faire photographier ? Parce qu'on lui dit souris.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Quel est le sport préféré des chèvres ? C'est l'aérobic.
Qu'est-ce qui est petit, qui monte et qui descend ?
Un petit poids dans l'ascenseur.
Un client rentre dans une librairie et dit au libraire : je voudrais un livre de quel auteur ? Vincent qui ?
Ben Vincent qui maître.
Monsieur et madame Tricable ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Inès, parce que Inès Tricable.
Quelle princesse a les lèvres gercées ?
La belle au bois dormant.
Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas faire de vélo ?
Parce qu'elles n'ont pas de pouce pour actionner les sonnettes.
Pourquoi ne faut-il jamais découper de la saucisse rondelle et les jeter à la poubelle en hiver ?
Parce que les six rondelles reviennent au printemps.
Merci à tous d'avoir écouté toutes nos blagues du classe de Malourté. Merci beaucoup. Nous allons reprendre le bus, repartir à Malourté. Et c'était le classe avec l'association Myriade.
C'était donc les enfants du classe de Myriade qu'on remercie beaucoup d'ailleurs pour leur temps. Merci à Camille de les avoir accompagnés. Merci à Kevin qui a fait le montage de leurs blagues. Et vous pourrez bien sûr en entendre d'autres dans la prochaine émission, L'Actu sur un plateau, donc, où nous sommes de retour sur les ondes de Radio Larzac. Et on continue pour l'heure de parler des rendez-vous hors normes, des propositions culturelles autour des arts singuliers à Millau et ses alentours. Parmi le riche programme qui touche presque presque à sa fin. On retrouve aussi une soirée au Café Culturel Le Pivert ce samedi 20 mai, avec notamment un concert du groupe Les Squatteurs du Blues. Nous sommes au téléphone avec Pierre Kivitz et quelques membres du groupe. Alors bonjour Pierre, et tu es avec quelques membres des Squatteurs du Blues?
Oui, je suis avec Pierre, Sylvain, avec Cisco, Olivier et Eugénie. Donc 5 membres des Squatteurs du Blues.
Bon, merci d'être avec nous au téléphone pour Radio Larzac. Et donc pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas, donc les Squatteurs du Blues, c'est un groupe de musique qui réunit des patients, des patientes et des soignantes et soignants du Centre des Réhabilitations Psychosociales Sainte-Marie de Rodez.
Parfait,
c'est ça. Et donc vous donnez un concert ce samedi 20 mai au Pivert. Vous êtes en pleine répétition maintenant ?
Oui, enfin on vient de terminer là une mini-répétition parce qu'on a déjà répété pas mal ces dernières semaines. Alors c'est jamais suffisant, on se dit mais il faudrait qu'on répète une fois de plus pour que tout soit au point. Mais c'est toujours comme ça avec les squatteurs, il y a une telle énergie que finalement elle se dégage là dans les concerts en fonction de, voilà, de ce que chacun apporte.
Et donc vous appelez les squatteurs du blues, c'est que vous jouez que du blues ou vous jouez aussi des...
Non, on a un répertoire très très varié, très varié. Les squatteurs du blues, c'est un nom qui était trouvé par un des membres du groupe, qu'on trouve assez sympa parce que le... Si j'ai le temps de l'expliquer un petit peu, c'est un groupe à géométrie variable, comme on dit, qui fonctionne un petit peu comme un squat musical, c'est-à-dire qu'il y a un noyau dur de quelques chanteurs, musiciens, et puis à partir de ce noyau, ben, il y a des personnes qui viennent poser leur chant, un instrument, et qui font un peu bout de chemin avec nous, et voilà. Donc c'est un espèce de squat musical, mais les styles sont très variés, hein. Ça va du rock, pop, en passant maintenant par en un, on s'est lancé un peu dans le slam. Donc voilà, c'est assez varié.
Ok, donc il y a aussi des compositions originales ?
Alors il y a des compositions originales et des reprises que je qualifierais d'originales aussi, puisqu'on les reprend toujours un peu à notre sauce, c'est ça l'idée. Mais en effet, il y a des compos et des reprises, je dirais c'est à peu près 50-50 peut-être, peut-être un peu plus de compos aujourd'hui, avec les slams comme c'est des compos... Voilà. Mais on a travaillé sur les deux versants, en effet, des compositions, des créations originales et la participation des squatteurs qui apportaient les paroles, la musique, et puis des reprises, mais qui étaient toujours, c'était toujours des reprises à notre sauce, on va dire.
Mm-hmm. Et donc, pour ceux qui sont avec toi autour de la table, vous jouez quoi comme instrument ou vous chantez? Qu'est-ce que vous faites au sein du groupe?
Mais je vais juste te dire que je joue de la guitare personnellement et puis je vais passer le micro, enfin le téléphone. Ouais. Aux collègues, je vous passe Pierre-Sylvain.
Bonjour.
Bonjour madame. Moi je joue pas de musique, mais je chante.
D'accord. Et vous chantez quoi?
Amsterdam, MC Solar Bouge de là, ce que je deviens, slam. Et voilà. Et plusieurs autres choses. Dormir dehors, les marionnettes, et voilà.
Et comment vous avez voulu intégrer ce groupe? Est-ce que vous avez toujours fait de la musique? Comment c'est arrivé pour vous?
Moi, j'ai fait de la musique quand j'étais jeune dans un groupe de rap à Brive. Mais ils m'ont proposé, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux venir ?» Moi, j'ai dit oui, et puis je regrette pas, c'est une très belle aventure et tout.
Super. Et il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole autour de la table?
Allô, excusez-moi, oui.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sophia, à l'appareil, je présume.
Oui, c'est ça, c'est moi.
Vous avez parlé au docteur Kivitz, que je remercie énormément de nous consacrer du temps pour l'interview.
Oui, bah merci à vous. Vous, qu'est-ce que vous jouez?
Moi, je vous dis, je vais aller en tant que patiente, d'ici du CRPS. Je fais de la musique au sein de cet établissement aussi. Pour éveiller les cœurs, voilà. Pour éveiller les cœurs, et nous faisons de la musique pour tout le monde. Cette musique, elle est adaptée à tout le monde, aussi bien les grands que les petits. Et je veux dire aussi que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir toute cette chance hein, qu'on a eu exactement d'auparavant jusqu'à maintenant.
Oui, effectivement, c'est une grande richesse.
À regarder, nos squatteurs du blues sont... sans une unanimité formidable, voilà.
Oui, bien sûr. Et vous, vous jouez quoi? Ou vous chantez?
Moi, je chante. J'aime bien jouer un peu de guitare, mais pour m'amuser, quoi. Et sinon, je préfère chanter.
Ok, et qu'est-ce que vous allez chanter samedi au Pivert?
Samedi, au contraire, je vais chanter Bouge de là.
Et la même question que pour Pierre-Sylvain, comment vous avez commencé à faire partir de ce groupe ?
Bien, bah, dire, moi je suis intemporel, donc je ne peux pas vous répondre. Alors, donc, je dirais, bah, je ne sais pas, voilà.
Ok, bah, en tout cas, c'est une très belle aventure, comme vous l'avez dit. Oui. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole ?
Je vais vous passer M. Rabereau-Olivier, un infirmier du CRPS.
Allô, oui, bonjour.
Oui.
Olivier Rabereau, donc je suis l'infirmier du CRPS et voilà, donc je suis référent de l'activité des squatteurs du blues.
Ok, et donc est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter l'origine de ces projets ? Comment il est né ? Est-ce que c'était des patients qui ont eu l'idée ? C'était vous, soignant, soignante ?
Alors, le projet a débuté il y a quelques années. En fait, c'était suite à Monsieur Labille, qui était musicothérapeute à l'époque, et Monsieur Kivitz, qui était le médecin-chef donc du service, qui avait rencontré en fait et constaté qu'il y avait différents patients usagers du CRPS, donc qui avaient des capacités musicales. Moi, je suis arrivé l'année d'après, donc en 97, et en fait, j'ai développé en fait une activité de musique, de médiation musicale, et donc à créer en fait tout un répertoire de musique avec les patients, parce qu'en fait beaucoup en fait aimaient la musique, prenaient plaisir à faire de la musique, et certains justement avaient déjà des capacités musicales. Donc j'avais déjà quelques usagers qui soit faisaient de la guitare, qui chantaient, faisaient du piano ou différents autres instruments, et donc on a fédéré un petit peu tout le monde pour monter ce groupe justement qui s'appelle donc les Squatteurs du Blues. Et l'aventure arrête pas de se développer, parce qu'au tout début donc c'était juste une petite activité, je dirais hospitalière entre guillemets, thérapeutique. Et à partir de 2020, en fait, dans le cadre d'un projet culture et santé, donc là, j'ai rencontré Cisco, Francis Estève, donc qui est artiste, médiateur et qui utilise la MAO de l'association Prodige. Et donc ensemble, on a développé en fait toute l'activité, donc avec l'apport de la musique assistée par ordinateur, et donc fait tout un travail en fait de composition, d'interprétation, d'enregistrement et de développement justement de différentes musiques. Et de toute cette aventure, en fait, on a même édité un CD qui est sorti, donc qui est un double CD, même en plus, quand même, faut le noter, parce qu'à l'origine, c'était juste être censé être 6 chansons, et finalement, il y en a 23. Donc, on a eu l'opportunité de pousser le projet, en fait, vraiment de la création, enfin de la composition, création, édition d'un double CD. Après ce double CD, donc, qui est édité en physique et disponible dans différentes structures, donc la Maison du Livre à Rodez ou le Clair Culturel, aussi est disponible sur toutes les plateformes digitales. Et en fait, on a poussé le bouche encore plus loin, c'est-à-dire que l'ensemble en fait des patients, des usagers, donc qui ont écrit et composé les musiques, en fait sont inscrits à la SACEM en tant qu'artistes et donc propriétaires de leurs textes et chez musique.
Ok, donc effectivement, vous avez parlé de musicothérapie, mais on voit que ça va vraiment plus loin. Et en tout cas, ce processus de permettre à chacun de jouer ensemble, de retrouver une place au sein d'un groupe, mais aussi de se construire quelque chose qui va au-delà de l'étiquette qu'on pourrait dire de « malade », entre guillemets, c'est quelque chose qui fait vachement penser aussi à la psychiatrie ouverte.
Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment développé la chose, c'est-à-dire qu'au-delà, c'est vrai que la musicothérapie, on peut imaginer tout à fait, voilà, ces prises en charge individuelles et de thérapie. Mais là, par contre, on a poussé la chose en vraiment utilisant la médiation culturelle, c'est-à-dire, en fait, utiliser la musique comme, on va dire, comme message, comme moyen, en fait, de retrouver une place de citoyen dans la vie sociale. Donc c'est retrouver d'avoir aussi ce droit à la parole, de retrouver sa place dans la cité, d'avoir cette expression, de retrouver de l'estime de soi, de retrouver de l'espoir, une importance, voilà, de complètement quitter cette place en fait d'usager de la psychiatrie, quoi. Donc on quitte vraiment le domaine de la pathologie mentale pour au contraire vraiment retrouver cette place citoyenne.
Et comment se passent par exemple les répétitions du groupe ? Est-ce que vous vous voyez toutes les semaines, tous les mois ?
Voilà, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, en fait, les jeudis après-midi, donc on se retrouve, l'ensemble du groupe, donc est composé, mais comme disait M. Kivitz tout à l'heure, c'est un groupe à géométrie variable. Maintenant, on a un noyau qui n'arrête pas de se développer, parce que maintenant, on est à 13 membres. 13 membres, alors que tout...
C'est presque un big band.
Et en fait, ça n'arrête pas de se développer, mais maintenant, ce qui est très chouette dans l'aventure, c'est qu'en fait, je n'ai même pas besoin d'aller chercher les candidats, quoi. C'est eux qui viennent à nous.
Et donc, je suppose qu'il y a des personnes qui partent aussi, qui quittent le CRPS et qui peut-être continuent de faire de la musique après ?
Alors, Il y en a qui quittent le CRPS, par contre, il y en a pas. Il y en a, oui, peut-être deux qui ont quitté depuis en 5 ans, là, qui ont quitté l'activité, mais par contre, l'ensemble, en fait, reste fidèle, en fait, vraiment au groupe, parce que vraiment, ils y trouvent, en fait, un épanouissement et du plaisir. Mmh. Et donc, ils continuent forcément, ils continuent donc de rester dans le groupe. Hein. Et voilà.
Et est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui souhaitent ajouter quelque chose, nous raconter un peu de cette aventure ?
Oui, je vais vous passer Jean-Antoine, là, pour l'instant, vous voyez, qui fait partie aussi du groupe, bah, qui est dans les membres, on va dire, originels du groupe, quoi. Je vous le passe.
Ok, super, merci.
Bonjour.
Bonjour, Jean. Alors, vous jouez un instrument, vous chantez, qu'est-ce que vous faites au sein du groupe ?
Alors, voilà, moi, je fais le guignol, je chante. Je chante simplement, puis mes copains, mes compagnons, écrivent des chansons, improvisent, puis on fait des enregistrements de ça.
Et qu'est-ce que vous allez chanter au concert du 20 mai ?
Ah, du Johnny.
Qui c'est votre auteur préféré ?
Non, on a un planning qui est assez riche, mais disons que c'est celui que je préfère.
Et vous, c'est quoi le côté que vous aimez le plus dans le fait de faire partie des squatteurs du blues ?
C'est de voyager dans les esprits. Vous savez, la musique, c'est une vibration qui vous apporte beaucoup, énormément même. Le fait de sortir de chez soi et de voir d'autres, et malgré, même s'il pleut, c'est joueureux, hein, eh bien, de chanter, voilà.
Oui, ben merci beaucoup, Jean.
Parce Cisco, le roi du disco.
Bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour inviter toutes les auditrices et auditeurs de Radio Larzac à venir vous voir ?
Bah, qu'ils viennent voir ce groupe singulier et extraordinaire. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Et je suis extrêmement fier de chaque usager et des progressions qu'ils font. Et c'est vraiment, déplacez-vous, venez voir des artistes avant tout. Venez voir une proposition singulière artistique. Venez découvrir. En plus, ils sont vraiment avides de rencontres et de discussions avec les gens, de parler aussi, ouvertement aussi, et des fois de leur maladie, de ce qu'ils peuvent vivre. Donc ça peut être vraiment une belle rencontre. Donc venez voir avant tout les artistes et cette proposition-là.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à Pierre Kiewicz et aux membres des Squatteurs du Blues pour votre temps. Et on vous invite donc vraiment chaleureusement au concert le samedi 20 mai à 19h. L'entrée est gratuite pour assister donc au concert des Squatteurs du Blues. Ils ont l'air d'avoir préparé vraiment un riche répertoire pour vous. Et donc merci Pierre et à tout bientôt.
Merci. Et à très bientôt.
À très bientôt, oui.
Au revoir.
Au revoir, merci. Et pour l'heure, l'émission continue maintenant avec une pause musicale. Kevin, c'est toi aujourd'hui qui l'as choisi.
C'est ça. Je vais vous parler du coup de This World Stop de The Caracal Project. Mais avant de vous en parler, je vais directement lancer la musique.
Possibilities exist. Either I am alone in the universe, or I'm not. Both are equally terrifying. The power of the thought can mirror everything I experience. Through memory and knowledge, I myself become a microcosm. Terrifying. dignity and also entitlement as a human being to find something beautiful, no matter how slight. Here is the world, and terrible things will happen. But when I saw you, this world stopped. Either I am alone in the universe, or I'm not. Both are equally terrifying.
Vous venez d'écouter This World Stopped de The Caracal Project sur l'actu sur un plateau, proposé par Azur Larzac. Et wow, quelle atmosphère incroyable! C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire écouter ce son aujourd'hui. Le son vous transporte de force dans son univers. Quand on l'écoute, on a l'impression de rentrer dans un trou noir perdu au fin fond de l'univers. L'utilisation d'instruments synthétiques qu'on peut retrouver dans les sons électro sont ici modifiés pour créer une atmosphère à la fois étrange et rapide. La batterie typée drum and bass derrière qui est là pour se charger du rythme et qui transmet une sorte de pulsion qui démontre qu'on ne se trouve pas dans un endroit calme. Tout ça sublimé par la voix féminine qui nous dit « deux possibilités existent. Soit je suis seul dans l'univers ou je ne le suis pas. Les deux sont terrifiantes. » Cette phrase nous met directement dans l'ambiance pour le reste de la musique. Je trouve que ce titre est particulièrement réussi dans l'univers qu'il a voulu dégager. Chaque son colle avec les autres, et d'un point de vue de quelqu'un qui fait de la composition sur ordinateur, on ne peut qu'admettre que ce morceau est réussi, autant dans son atmosphère, comme je le répète, que dans son arrangement ou son choix d'instrument.
Merci beaucoup Kevin pour cette proposition musicale.
Et de rien.
Et pour continuer cette émission L'Actu sur un plateau, continue toujours sur le ton de Hors Normes, les rendez-vous culturels autour des arts singuliers, de l'art brut à Millau et ses alentours. Et on va se focaliser maintenant sur toujours la soirée du samedi 20 mai au Pivert. Cette fois-ci, c'est pour parler de la soirée Un clin d'œil à Polak et à son émission Droit de réponse, une proposition qui a été initiée par la compagnie La création éphémère de Millau, et je vous propose donc d'écouter Philippe Flao de la compagnie justement La création éphémère, qu'il est venu à la radio pour nous parler de cette soirée il y a quelques jours, et on l'écoute tout de suite. Donc bonjour Philippe Flao.
Bonjour.
Aujourd'hui on s'intéresse au clin d'œil à Polak que vous organisez dans le cadre des rendez-vous hors normes. Donc clin d'œil à l'émission Droit de réponse. Ce sera le samedi 20 mai à 20h30 au Pivert. Et c'est d'ailleurs le même horaire de passage qu'à la télé. Parce que du coup je me suis renseignée, j'ai vu que c'était diffusé exactement à 20h30 le samedi entre 1981 et 1987 sur TF1. Pourquoi ce clin d'œil à Polak dans le cadre de Hors Normes ?
Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que tous les débats, justement, télévisés sont très policés, avec des temps de parole chronométrés, etc., etc. Moi, ça amuse de voir ça, quoi. Et c'est vrai que le côté, allez, on va prononcer le mot un peu anarchique de cette émission, je sais pas si ça existe encore, moi je regarde très peu la télé, mais en tout cas c'est pour ça que je regarde très peu d'ailleurs. Voilà, ça existe pas, et on trouvait que on était un peu hors norme en essayant de redécouvrir ce qui était Droit de réponse de Michel Polak. La deuxième raison, c'est parce que quand le collectif s'est réuni il y a à peu près un an et demi pour la première fois pour penser à ces rendez-vous hors normes, on s'est retrouvé dans ce genre de réunion avec au départ l'idée était de parler de l'art brut. Et là, très rapidement, dans la réunion, il y avait des puritains de l'art brut qui sont arrivés, et c'était très 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 bien, qui n'ont pas accepté que voilà, que la définition de l'art brut, qui est une définition très compliquée, encore une fois, puisse être simplifiée comme ça à travers nos expériences un peu hors normes de tous les artistes qui étaient là. Donc il y avait des discussions qui se sont déroulées au moins pendant les trois premières, hein, c'était des discussions, des réunions mensuelles où ça partait dans tous les côtés, etc. Bon, j'ai trouvé, on a trouvé ce côté très intéressant, qu'on a dû un peu polisser après, parce que sinon on ne serait pas arrivé à ces rendez-vous hors normes qui se passent en ce moment. Et on s'est promis que on allait se réunir autour de ces mêmes débats. À ce moment-là, on ne pensait pas quand même à Polak et tout ça. Donc d'une façon un peu, je dirais, festive, anarchique, un peu jouée, voilà, sur alors les premières questions de Michel Polak seront qu'est-ce que l'art brut ? Voilà, pour un petit peu encore activer tous ces gens qui ont une définition. Et puis après, il y aura, je dirais, une dizaine, une quinzaine de propositions de questions avec des gens. Alors, je fais, puisque je suis sur l'antenne là, tous les gens qui ont envie de venir polémiquer, c'est rare hein, de dire ça, mais qui viennent, c'est... parce que c'est le
tout
but.
Tout le monde est invité, voilà, participer.
C'est le but. S'il y en a qui veulent laisser des messages... avec des questions parce qu'ils ne sont pas là, et ben, qu'ils les mettent sur la messagerie de la compagnie Création Éphémère et on essaiera de les diffuser et on essaiera d'y répondre.
Et donc pour reprendre un peu ce que c'était Droit de Réponse, donc cette émission historique, comme on l'a dit, un peu anarchique, on va écouter un extrait.
Monsieur Polak, il y a des milliers d'associations en France qui organisent des spectacles et vous n'en parlez pas aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que vous pouvez faire, monsieur Polak, s'il vous plaît, pouvez-vous
faire la quête pour les tourneurs?
Bon, écoutez.
Madame Bressot.
Non, écoutez, monsieur Alga, une seconde, ça sera une autre émission.
Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose?
Ne parlez pas du spectacle.
Une seconde, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Patrice Blanc-Francard n'a pas placé un mot ce soir, je voudrais qu'il conclue parce qu'il représente quand
même.
Ah non, mais écoutez,
on n'a jamais parlé du spectacle.
La paix, on se met la main dans la gueule maintenant.
Mais on n'a pas parlé de paix, s'il vous plaît. On n'a pas parlé
de paix. Je regrette,
voilà, écoutez. Votre émission, vous n'avez parlé que du
je regrette.
Et des buildings. Mais il y a des
artistes qui
font de la paix. Monsieur Halimi, laissez-le diriger. Écoutez, monsieur Halimi, je vous remercie.
Vous voulez vous taire?
Non,
vous voulez vous taire?
Donc voilà, on entend vraiment un très vif débat. C'est même difficile de comprendre ce que les gens disent. Mais effectivement, le sens de l'émission, c'était que tout le monde avait le droit de prendre la parole, de répondre, même celles et ceux qui n'étaient pas invités ou qui n'étaient pas expertes et experts. Toi, personnellement, quel souvenir tu as de cette émission? Un souvenir marquant, peut-être?
Ah bah, des grands passages de Des Proches, de Coluche, enfin voilà, tous ces gens. Qui n'avaient pas de limite, et c'était, mais en même temps, et de par leur discours, il y avait une analyse très fine de la société dans laquelle on était à ce moment-là, bon, qui ressemble étrangement à la société dans laquelle on est à ce moment. Et voilà, et puis grand moment de liberté, et j'aimais bien parce que c'était quand même contrôlé, parce que l'émission durait quand même, je sais pas, peut-être 2 heures, et à la fin de l'émission, il y avait très souvent Polak qui disait, bon, on rend l'antenne, tellement que ça débordait de partout, et c'était un moment vraiment très très beau de voir, voilà. Ça fumait, on fumait la pipe, on fumait, enfin, c'est l'époque, voilà. Alors là, je crois pas qu'au Pic Vert on va pouvoir fumer. Alors, peut-être qu'on mettra une machine à fumer pour montrer que, qu'il y a du brouillard avec les cigarettes, qu'il n'y en aura pas. Voilà.
Oui, et du coup, le décor aussi de l'émission était particulier parce que les invités étaient sur plusieurs tables et du coup, ils se faisaient pas face. Et en plus, il y avait des figurants qui ne parlaient pas et des intervenants qui n'étaient pas annoncés au début. Donc vous allez utiliser le décor du Pic Vert, c'est ça?
Voilà, bon, on sera quelques années plus tard. On n'a pas retrouvé le décor de Droit de Réponse. Mais voilà, et le Pic Vert est à fond avec nous. Donc bien sûr, hein, c'est, on ne va pas se retrouver qu'entre soi, j'espère. C'est tout public, avec des gens de passage qui seront là, en train de boire leur bière en même temps et qui pourront participer au débat qu'on fixera, oui, je pense, jusqu'à une heure et demie, deux heures, quoi.
Et donc pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, donc vous vous êtes retrouvés dans ce genre de débat et le sujet de départ va être l'art brut. Et dans le fait que tout le monde puisse prendre le droit de parler, de répondre, justement, il y a un peu la même notion de l'art brut où tout le monde finalement a le droit de faire de l'art même sans en être un expert.
Exactement, je pense qu'on va être aussi dans cette redéfinition, notre redéfinition. Et puis aussi, bon, il se sera passé, on sera proche de la clôture des rendez-vous hors normes, avec tout ce qu'a pu se dire depuis le début, entre nous, etc., sur notre pratique, est-ce qu'on est dans l'art brut, est-ce qu'on n'est pas, bon, je dirais, comme dans le droit de réponse, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est de se parler, de se retrouver, d'avoir... Et mine de rien... Dans ce genre de débat, je trouve quelquefois qu'il y a plus d'écoute que dans les débats policés. Parce que dans les débats policés, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne la parole. Et donc, ils n'écoutent pas les autres. Il y en a même qui dorment pendant ce temps-là. Donc, le grand brouhaha, quelquefois... Bon, je ne dis pas tout le temps, mais quelquefois, ça fait du bien.
Et donc, comment vous organisez en ce moment ? Est-ce que tout va être improvisé ou est-ce que vous avez des rôles, par exemple, la personne qui va dire non tout le temps ou la personne qui va se taire ?
Non, on sera dans l'impro. On a une petite réunion ensemble, enfin, un petit rendez-vous ensemble qui est très ouvert à la fabrique. Donc, si les gens veulent venir, c'est le jour de l'Ascension, je ne sais plus quand. Jeudi, c'est donc un jeudi, là, juste avant, à 18h. Où les gens un peu de hors normes vont un petit peu préparer. Alors préparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va regarder en boucle une à deux heures d'émission de Polak pour bien s'imprégner de tout ça, de voir les travers dans lesquels il faut pas aller. Et puis voilà. Et puis il y aura un Polak, Michel Polak, qui sera là avec son micro. Et puis voilà. Bon, on va être dans l'impro, oui, total. Oui.
Une autre critique que j'ai lu de cette émission, enfin notre analyse, disons, c'est que c'était un peu les premières fois où on voyait ce qu'on appelle aujourd'hui le clash, donc des gens voilà qui n'hésitaient pas à s'insulter aussi sur le plateau. Est-ce que vous êtes donné des règles, justement, tu parlais de règles pour éviter ce genre de situation?
Non, absolument pas, absolument pas. Sinon, ce serait pas le droit de réponse. Maintenant, moi j'ai souvenir aussi qu'il y avait des clashs bien calculés, quoi. Voilà, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des dissipateurs, on va dire, pour l'occasion. Bon, maintenant, non, rien ne nous fait peur, je pense pas, non, c'est bien qu'il y ait des clashs. Oui, venez faire un clash,
à venez droit de clasher, réponse,
bah oui, voilà, c'est un slogan, c'est bien, oui.
Eh bien, merci beaucoup Philippe. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, juste avant, donc au Pic Vert, il y aura les squatteurs de blues. Tu vas en parler, je pense, plus tard. Mais j'ai envie de dire que si on veut passer une belle soirée, on vient à 19h30, je pense, pour écouter.
À 19h.
Voilà, oui. Les squatteurs de blues. Ce sera au même endroit. Donc, c'est à l'intérieur, dans la salle de spectacle du Pic Vert. Et juste après, on sera sur Droit de Réponse.
Et donc, ce sera pour Droit de Réponse à 20h30, toujours au Pic Vert. Et toujours gratuit, donc dans le cadre des rendez-vous hors normes. Merci.
Merci à vous.
On vient d'écouter l'interview de Philippe Flao pour nous parler de la soirée Droit de réponse, un clin d'œil à Polac, qui aura lieu ce samedi 20 mai à 20h30 au Pivert, toujours dans le cadre des rendez-vous hors normes. Et comme vous l'entendez par le générique de fin, c'est déjà la fin de l'actu sur un plateau pour ce mois-ci sur les ondes de Radio Larzac. C'est une émission encore une fois consacrée aux rendez-vous hors normes qui continue de rythmer la vie culturelle de Millau et de ses alentours, et ce jusqu'au 26 mai, donc je vous invite à consulter tout le programme pour ces derniers jours sur millau.fr. Et pour cette émission, je remercie en particulier Françoise Cabiron, membre du collectif Hors Normes. Merci aux enfants du classe de Myriad pour leur billet d'humour. Merci à Pierre Kiewitz et aux squatteurs du blues. Merci beaucoup Kevin pour la technique et la chronique musicale.
Il n'y a pas de souci, merci à vous d'avoir écouté surtout.
Voilà, et puis merci à Philippe Flao aussi qu'on a écouté un dernier. Cette émission est rediffusée vendredi à 19h et elle sera disponible en podcast sur radiolarzac.org. Nous, on se retrouve le mois prochain pour refaire un tour de l'actualité locale. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Larzac.